Chers amis auditeurs, le Libre Journal des Littératures. Voici un mois, avec Jacques Chirjean, nous évoquions Barbey d'Aurevilly, toujours, entre Dieu et le diable. Le quatrième épisode de notre série d'histoires littéraires. Ce mois-ci, le cinquième, toujours Barbey, à la façon de ces écrivains qui racontent l'histoire. Barbey, en effet, ne se contente pas seulement de faire un roman historique, ne se contente pas seulement de décrire, il hante, il bouscule, il poétise. Barbey, c'est un auteur que l'histoire hante, hante littéralement dans ses romans. Elle l'obsède au sens le plus fort du terme. Chez lui, la révolution n'est pas un chapitre, la chouannerie n'est pas un épisode, la restauration n'est pas un régime. Ce sont autant de blessures ouvertes, de sécrétrices qui parlent encore. L'histoire ne s'y expose pas comme dans un manuel. Elle suinte des murs, jaillit des objets, marque et brûle la chair, elle tremble dans les voies, elle s'attarde dans les salons crépusculaires de Valognes comme une braise sous la cendre. Ce soir, nous n'allons pas demander à Barbey d'être historien, au sens où l'entend le 19e, positiviste, celui des belles archives classées, des causalités froides, des chronologies finement découpées. Nous allons au contraire nous demander si Barbey ne propose pas une autre façon d'écrire l'histoire, non scientifique, non neutre, mais mémorielle, symbolique, incarné et tragique. Car en effet, Barbey ne raconte jamais qu'après coup, dans un salon vallonnier, au coin d'un feu, au détour d'un souvenir, par un médecin cynique, ou encore la voix d'un paysan hébété. L'histoire apparaît immédiatement, sans le média, donc, de l'archive, le filtre de la science, la bouche du témoin, dont la mémoire, elle, filtre toujours, déforme et mythifie. Nous parlerons du chevet des touches, où la chouannerie ne surgit pas à la troisième personne, en cap et en épée, mais comme une bataille des cris à vif. Elle revient à travers une veillée, une parole rapportée, un nom des touches qui fait lever la tête dans un salon figé par le temps. Nous parlerons aussi de l'ensorcelé, où l'histoire et la chouannerie circulent à l'aube des rumeurs, se chuchotent dans la lande, s'incarnent dans le visage défiguré de l'abbé de la Croix-Jugant, comme si la Révolution avait laissé sa marque jusque dans la chair. L'histoire n'y est pas un savoir, elle est une physiologie, elle s'incarne dans le visage et la face balafrée, faite de corps marqués et de voix chevrotantes. Elle fait des corps marqués, des regards hantés, des voix incertaines. L'histoire, en effet, chez Barbey, c'est une voix. La voix du conteur, la voix du fabuliste, la voix de la haine du bocage, la voix du survivant, la voix de celui qui sait que le monde ancien ne reviendra pas et que seule la restauration possible est littéraire. À travers la Normandie mythifiée, ses figures hyperboréennes, les aristocraties déchues, les héroïsmes excessifs et tragiques et les gouffres crépusculaires, c'est toute une histoire alternative qui se dessine, peut-être même un régime d'écriture de l'histoire. Une histoire non pas expliquée mais transmise, non pas démontrée mais incarnée, non pas restaurée mais conservée comme une braise fragile dans la mémoire. Pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Pascal Auré-Jonchère. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'université à Clermont-Ferrand et une spécialiste reconnue de l'histoire du 19e. Vos travaux explorent depuis plusieurs années les rapports entre fiction, mémoire, histoire et conte, en particulier chez Barbey d'Aurevilly. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages et contributions consacrés à l'imaginaire historique, aux mythologies littéraires et aux formes de la mémoire narrative. Vous éclairez avec finesse ce moment où la littérature cesse de seulement raconter l'histoire pour devenir elle-même un lieu où elle se conserve, se transforme et parfois se légende. Et je suis accompagné également de mes habituels chroniqueurs, en particulier chroniqueurs auréviliens, Mario Varro et Bruno Santoram. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Vous m'accompagnerez, vous évoquerez chacun à votre tour tant l'historicité de l'histoire chez Barbey d'Aurevilly, que également, cher Mario, votre roman préféré, je crois, chez Barbey, L'Ensorcelé. Commençons d'abord par évoquer effectivement Barbey, le romancier historique. Bruno Santoram, vous êtes un homme d'archives, celui à l'instant que je dénigrais en parlant d'histoire positiviste et froide, mais vous avez néanmoins fouillé les archives de Barbey d'Aurevilly, et vous les racontez d'ailleurs aux auditeurs de mois en mois. Barbey historien, voilà une affaire. On sait que l'histoire, on en parlera, habite les ouvrages de Barbey d'Aurevilly, notamment l'histoire récente, contemporaine, celle des guerres révolutionnaires, celle de la chouannerie. Barbey a-t-il eu recours à la recherche historique et à l'archive, cher Bruno ?
Pas vraiment, il se basait surtout sur des souvenirs de famille et d'amitié. Bon, il a eu recours aux recherches de son ami Trabucien, qui était bibliothécaire à Caen. Et par exemple, pour le personnage de Joël de la Croix-Jugant, il s'est inspiré d'un lointain cousin qui s'appelait Alexandre Bernard Gigot, marquis de Bellefonds, qui était né en 1758, qui mourra en 1819, qui avait chouanné. Donc il était bon. D'abord, c'est un officier de carrière qui a émigré. Il avait un parent d'ailleurs qui était fusillé à Quiberon, et souvent on confond tous les deux. Donc c'est une précision à noter. Et donc il était revenu en France, et il avait été très gravement blessé en 1795 en Bretagne, près de Saint-Brieuc, alors qu'il protégeait un débarquement de munitions sur la côte. Bon, il avait été jugé, amnistié, mais ensuite, à la paix qui avait lieu entre le gouvernement central, donc et les Fouans, était retourné en Angleterre, puis s'était retiré à Valognes, où il commandait les gardes nationales. Et Barbé en a laissé bon, une description très, très imagée, dirais-je. Je peux vous la lire ?
Évidemment.
Voilà. Alors, l'abbé, enfin l'abbé, bon, entre guillemets, donc il n'était pas du tout prêtre, hein, c'était un officier. Commandait alors je ne sais quelle milice royale, dit Barbé. En fait, c'était les gardes nationales de l'arrondissement de Valognes. Il était épouvantable à voir, le visage labouré de cicatrices et les deux mâchoires soudées l'une à l'autre, de sorte qu'il ne pouvait parler. Mais comment s'y prenait-il pour commander, demandait-on à Barbé. Il rugissait, monsieur. Alors, dans son mémoire, pour obtenir bon, certains grades, on décrit de façon très précise ses blessures. Ses blessures sont affreuses. Un œil de moins, la mâchoire écrasée, une plaie sur chaque œil. Il est effrayant et peut à peine se nourrir. Autre document d'archives, les hasards de la guerre l'ont affligé d'une blessure qui non seulement le défigure d'une manière affreuse, mais encore le prive presque de l'usage de la parole et de la possibilité de se nourrir comme tout le monde. Ces blessures affreuses le rendent un objet digne à la fois de pitié et d'intérêt. Non seulement il est défiguré d'une manière effrayante, mais ne peut plus parler de manière à se faire comprendre et ne peut se nourrir qu'avec des aliments liquides qu'il faut saisir avec un chalumeau. Et ce chalumeau donc était pieusement conservé dans la famille, mais malheureusement il a été détruit en 1944. Alors il y a un autre document, c'est son propre passeport qui a été retrouvé par l'érudit André Chastain. Et alors sur son passeport, on mentionne « bouche, torse cicatrisé, menton cicatrisé, yeux gris et cicatrisé ».
On retrouve presque le visage de la Croix-Jugant, ce visage balafré par la guerre.
Oui, je vais en lire quelques extraits peut-être.
Je vous en prie.
Tiré de la Pléiade. Alors Barbé emploie ces termes. « C'est effroyable momie sanglante », en parlant du visage donc, et de l'ancien moine, l'abbé de la Croix-Jugant, donc, qui s'est... une tentative de suicide lors de combats, donc lors des guerres de la chouannerie. Alors, sur une autre page, il cite « une face criblée et couturée, pire que toutes les petites véroles que la terre y avait passées. » Et dans un passage bon, très dur, très torride, il raconte comment les Chouans bon, l'avaient plus ou moins torturé. Bon, une dame l'avait récupéré sur le champ de bataille à moitié mort, donc elle l'avait soigné. Et les Bleus plus exactement, l'avaient retrouvé. Donc ils avaient arraché des ongles et ligatures de son visage. Donc il les arracha d'une telle force qu'elles craquèrent, se rompirent et durent ramener à leurs tronçons brisés des morceaux de chair vite enlevés aux blessures qui commençaient à se fermer. Un rugissement rauque qui n'avait plus rien de l'homme sortit non plus de la poitrine du blessé, mais comme de la profondeur de ses flancs. C'était la puissance de la vie forcée par la douleur dans son dernier repère et qui poussait un dernier cri. « Et maintenant, dit l'exécrable sergent des colonnes infernales, salons le chouan avec du feu. » Et tous les cinq prirent de la braise rouge dans l'âtre embrasé, et ils en saupoudrèrent ce visage qui n'était plus un visage. Le feu s'éteignit dans le sang, la braise rouge disparut dans ses plaies, comme si on l'eût jeté dans un crible.
Oui.
Vous voyez, bon, c'est un passage très...
Oui, c'est effectivement le passage sur la torture de l'abbé de la Croix-Jugant, alors qu'il est pieusement recueilli par Marie Ecquet. On voit qu'il y a quelques correspondances finalement entre des figures vues et des figures romanesques. Barbé, je crois, dans sa correspondance, harcelait beaucoup le fameux trébuchien pour qu'il trouve quelques anecdotes ou quelques faits qui puissent nourrir son imaginaire, cher Bruno.
Oui, c'était surtout à propos du chevalier des Touches,
oui.
Bon, qui était dans l'asile du Bon Sauveur à Caen. Et Trébuchien lui avait apporté un certain nombre d'informations et Barbé, de son côté, donc, avait recherché auprès des vieilles familles du Cotentin. Alors le chevalier des Touches bon, est un personnage qui a existé, Jacques des Touches, qui était né en 1780 et qui mourra donc à l'asile du Bon Sauveur en 1858, plus âgé. Et il avait suivi des cours d'hydrographie à Granville. Alors son père, monsieur le sieur de Largotière, de Langotière plutôt, était gentilhomme armateur et banquier. Et le fils avait suivi ses traces, donc en suivant donc ses cours d'hydrographie, il avait travaillé dans les bureaux de la marine. Alors le père déjà était un agent secret des émigrés, il correspondait avec le gouverneur de Jersey, faisait passer des lettres clandestinement. Et à sa mort, il est mort peu de temps avant les faits, donc son fils lui a succédé, il transmettait lettres et rapports. Il a été dénoncé, arrêté en 1798 et condamné à mort, bon il avait à peine 18 ans. Et il est resté fameux donc à cause de l'enlèvement par ses camarades, donc qui lui avait permis de retourner en Angleterre et
oui.
Ensuite en France.
Quelle est la réalité historique des figures sur lesquelles s'appuie Barbet et qui justement apparaissent dans ses romans? Est-ce qu'il n'y a pas une distance quand même assez nette entre les demandes de faits précis qu'il adresse à son correspondant et ce qui apparaît dans le Chevalier des Touches ou dans l'Ensorcelé?
Ah bah, il enjolive tout, il invente. Bon, il part de faits réels, mais parfois plus ou moins bien transcrits, les dates, les lieux. Bon, il parle de, par exemple, pour l'abbé de Croix, l'abbé de Joël de la Croix-Jugan, il parle du combat de la fosse, en fait, que le prototype a été blessé en Bretagne, oui, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il s'inspire de faits réels, qu'il transpose, qu'il modifie, comme font les romanciers. Hein. Cela n'a rien de,
oui.
De très surprenant. Vous voulez que je vous lise quelques pages sur le Chevalier des Touches?
Je vous en prie, je vous en prie.
Alors, je ne vous peindrai pas le chevalier. Vous le disiez il n'y a qu'un instant à mon frère. Vous l'avez connu à Londres et vous lui appeliez la belle Hélène. Beaucoup pour son enlèvement et un peu aussi pour sa beauté. Car il avait, si vous vous en souvenez, une beauté presque féminine avec son teint blanc et ses beaux cheveux annelés qui semblaient poudrés tant ils étaient blonds. Cette beauté dont tout le monde parlait, dont j'ai vu des femmes jalouses, cette délicate figure d'ange de micelle, ne m'a jamais beaucoup charmé. J'ai toujours raillé sur les admirations enthousiastes de mademoiselle de Touche de Lys. Mais il était cette beauté, n'oubliez pas que cette mignonne beauté de fille à marier était doublée de l'âme d'un homme, que sous cette peau fine il y avait un cœur de chêne et des muscles comme des cordes à puits. Un jour, dans une foire à Bricbec, j'avais vu le chevalier traité de chouan avec insolence sous une tente. Faire tête à quatre vigoureux paysans dont il tordit les pieds de frêne dans ses charmantes mains comme si ça avait été des roseaux. Je l'avais vu pris brutalement à la cravate par un brigadier de gendarmerie taillé en Hercule, saisir le pouce de cet homme entre ses petites dents, ses deux si jolies rangs de perles, le couper net d'un seul coup et le souffler à la figure du brigadier, tout en s'échappant par un bond qui troua la foule ameutée autour d'eux. Et depuis ce jour, je l'avoue, la beauté de ce terrible coupeur de pouces m'avait paru moins efféminée. Donc il s'inspire de la beauté réelle du véritable chevalier des Touches. On en conserve un portrait.
Dont la séduction apparaissait. Bon. Cher ami, alors, à moins que vous ayez d'autres anecdotes à nous livrer sur l'historicité, justement, du propos de Barbet d'Aurevilly, votre intervention était prévue pour être nocturne et brève.
Oui.
Merci beaucoup.
Je peux vous décrire peut-être deux lignes sur
évidemment.
Le chevalier des Touches dans ses fonctions donc d'espion en fait et d'agent des émigrés. Entre les gentilshommes qui hantaient le château de Touvelier et qui concentraient la guerre, il n'y avait, malgré le courage que les distinguait, qui les égalisait tous, que ce jeune damoiselle de Chevalier des Touches pour se mettre ainsi à la mer comme un poisson. Car vous vous en souvenez, c'était réellement à peine un canot que cette pirogue de sauvage qu'il avait construite dans laquelle il filait en coupant le flot comme un brochet, caché dans l'entre-deux des vagues et défiant ainsi toutes les lunettes de capitaine qui surveillaient la Manche et l'espionnaient de chaque pointe de vague ou de falaise dans ces temps-là. Vous rappelez-vous qu'un soir de brume qu'il allait partir, vous voulut en riant descendre dans cette frêle pirogue et que vous, si légère alors, poids de fleurs et d'oiseaux, vous manquâtes de le faire chavirer, ma bergeronnette. Et pourtant, c'était dans une pareille coquille de noix qu'il passait par les plus exécrables temps, d'une côte à l'autre, toujours prêt à revenir ou à partir quand il le fallait. Toujours à l'heure, exact comme un roi, le roi des mers. Alors, vous voyez, bon, il magnifie le personnage, il en fait donc une figure inoubliable.
Oui. On sait que le personnage a mal fini, d'ailleurs, dans une sorte d'asile, je crois.
Oui, bien sûr. Oui. Et Barbet lui avait rendu visite, d'ailleurs. Il y a une longue description dans les mémorandums, mais bon, c'est trop long.
Hein. La coquille de noix évoque le mot, je crois, de Bonaparte concernant le comte d'Artois. Si j'avais été lui, j'aurais traversé la Manche avec une coquille de noix et j'aurais soulevé la France. Merci, cher ami. Il y a donc un parfum de réalité chez Barbet d'Aurevilly qui intéresse en particulier notre invité de ce soir. Pascal Henri Jonchère, vous avez beaucoup parlé justement du rapport entre la fiction, le conte, la fable et le mythe. À première vue, C'est vrai que nos auditeurs sont peut-être familiers de Barbier de Réville, il ensorcelé, Chevalier des Touches, cela évoque des faits, cela évoque la chouannerie, cela évoque des faits en plus qui ne sont pas très vieux, qui ont peut-être deux générations pour les lecteurs de 1851-52, au moment où paraissent une première fois les deux ouvrages. Barbet a-t-il écrit et commis des romans historiques? On sait son admiration pour Walter Scott, je crois. Le genre de roman historique est-il adéquat?
Alors, son admiration pour Walter Scott, assurément. Son intérêt, un intérêt profond pour les historiens, assurément aussi. Il a beaucoup écrit sur ce qu'écrivaient les historiens. Et c'est vrai qu'il avait l'ambition, d'une certaine manière, de faire œuvre d'historien, surtout parce que l'histoire s'est remontée dans le temps et c'est évident à dire, mais pour Barbet, le présent, plus que pour d'autres peut-être, s'explique énormément par le passé. Donc voilà, il y avait cet intérêt-là, puisque on le sait, hein, toute sa vision du monde, en réalité, procède d'une vision de l'histoire autour de ce qui pour lui a été la césure absolue et absolument dramatique et même, comme il le dit, satanique, hein, de la Révolution française. Alors, il a des projets et il a notamment, dans les années 50, en 1848-49, il a l'idée d'écrire une série de romans qui s'intitulerait « Ouest ». Et c'est à ce moment-là qu'il convoque Walter Scott. Et il écrit qu'il voudrait bien être le Walter Scott du Cotentin. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment ce qu'il fait, parce qu'il retient plutôt de Walter Scott une sorte de, je dirais, une atmosphère, puis parfois aussi des situations précises. Hein. On peut reconnaître des personnages, on peut reconnaître des situations romanesques, mais enfin, c'est bien tout. Et malgré tout ce que j'ai dit de son intérêt pour l'histoire, il ne privilégie pas l'écriture de l'histoire, il privilégie celle du roman. Alors j'avais noté quelques citations en réfléchissant à l'histoire, quelques extraits, et notamment l'extrait d'un article, hein, qu'il a écrit un petit peu plus tard, en 1861, dans Le Pays, où il écrit la chose suivante. Malgré ses ambitions de vérité, l'histoire n'est après tout que de la parole humaine, soumise à la triste condition de la parole humaine, qui est de pouvoir tromper et de pouvoir être trompée. Alors on note cette vision-là qui est assez réductrice, méfiante, et parallèlement, il avoue qu'il ne peut absolument pas se passer de la fiction, de l'écriture des passions, et donc son projet, ce n'est pas du tout de faire en réalité, ma réponse sera non ou presque non, il n'a pas écrit à mon sens de roman historique. Le roman qui s'en approcherait le plus peut-être alors serait Le Chevalier des Touches, mais alors là il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. Encore une fois, il privilégie l'intérêt romanesque, il privilégie ce qu'il appelle, alors autre courte citation, la grande, j'aime beaucoup cette expression, la grande vérité humaine d'imagination et le sentiment, j'insiste moi sur ce mot, le sentiment de la réalité de mœurs et d'histoire. Un sentiment, ou encore un autre terme qu'il aime bien employer pour parler de l'histoire, qui peut paraître étonnant, c'est le terme d'impression. Il veut retenir, transmettre, communiquer des sentiments et des impressions, et surtout pas justement des notations qui seraient celles, dit-il, d'un faiseur de procès-verbaux historiques. Hein. Ce n'est pas lui, hein, ça, pas du tout. Voilà. Alors, dans tout ce qu'il écrit à Trébussien, on retrouve à peu près les mêmes idées. Alors, je disais que peut-être à la limite, on pourrait envisager Le Chevalier des Touches comme un roman historique. Encore faudrait-il définir ce qu'est un roman historique. Mais à cette nuance près, tout de même, il n'est pas mince, c'est que ce récit, depuis le départ, depuis l'ouverture, c'est un récit spectral. On croise un personnage dans la nuit noire qui est perçu comme un spectre, qui est des touches revenues. Et donc, ce qui se met en place dès le début, c'est une sorte d'atmosphère surnaturelle, un petit peu comme à la manière de L'Ensorcelé d'ailleurs. Et la focalisation sur des touches, hein, avec ce titre qu'il a finalement choisi, donc il devait appeler ce roman L'Événement, hein, au début, mais il a choisi de l'appeler, de lui donner le nom du personnage éponyme. Donc des touches, c'est une façon d'attirer l'attention, alors certes sur un référent historique, puisque comme on nous l'a expliqué tout à l'heure, ce Chevalier des Touches a bel et bien existé, mais c'est un référent historique qui, curieusement, apparaît comme un fantôme et dont aucune description et aucun récit des événements dans le roman ne parviennent à venir à bout, parce que tout est contradictoire et tout est extrêmement, effectivement, exagéré ou plutôt magnifié. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Enfin bon, ce des touches, il apparaît, il disparaît, il est complètement infernable. C'est pour ça qu'il est passionnant. Et voilà, en prétendant dire l'histoire, moi je crois que Barbet montre que l'essence, hein, la nature profonde de l'histoire, se restitue non pas par des faits, mais, comme je l'ai dit, par des impressions.
Oui. Vous mentionnez effectivement ces articles. Je pense qu'il est très, il me semble qu'il est très acide avec ces historiens qui prétendaient à l'archive, à l'objectivité, à la scientificité. Je crois qu'il y a des articles assassins sur Tocqueville. Et à l'inverse, il est capable de célébrer une vision de l'histoire plus théologique, plus enthousiaste, plus philosophique que chez des adversaires politiques comme Carlyle, par exemple, qui pourtant est une histoire révolutionnaire.
Oui.
Donc,
c'est
quelqu'un qui, dans ses articles.
C'est la manière, hein, c'est plus que la matière qui l'intéresse.
Absolument. Toutefois, en le lisant, on voit quand même un souci d'incarner et de préciser. Le patois dans L'Ensorcelé, par exemple, la charge d'objets qui apparaît dans La Partie de Whist ou même dans Une vieille maîtresse. On peut faire une page sur une théière de duchesse. Je crois qu'il y a une page, par exemple, sur le fait d'ouvrir un cigare ou une pipe lors de Le Chevalier des Touches. Il y a le goût de l'anecdote. Quel statut accorder à ce souci du réel et de la précision chez Barbet ? Pour le coup, s'il ne s'agit pas d'un roman historique, est-ce qu'on ne pourrait pas rapprocher cette entreprise d'autres auteurs du 19e en parlant de romans réalistes ?
Alors, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais je vais essayer de justifier évidemment ce que je suis en train de dire. Alors, le réel est bel et bien présent. Vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup d'objets, il y a beaucoup de faits extrêmement précis qui sont décrits d'une manière tout à fait détaillé et tout à fait réaliste, c'est bel et bien le terme. Et on voit bien que finalement, Barbet, ce qu'il retient du réel, eh bien, ce sont les éléments qui disent et qui traduisent, qui transmettent, qui pérennisent le passé, qui le rendent vivant. Alors voilà, vous en avez donné des exemples, hein, tout ce qui relève de la tradition, alors le patois, vous l'avez dit, les jeux de cartes, le jeu de whist, hein, en particulier, et puis oui, des objets mémoriels. Il aime beaucoup les objets qui font naître des histoires, qui suscitent des histoires ou des souvenirs. Je pense là, par exemple, à l'ouverture du roman « Un prêtre marié », au camée qui sert de point de départ à l'histoire. Mais en réalité, plus que ces objets eux-mêmes, ce qu'il aime, je crois que ce sont les traces. C'est, dans son roman, mettre en évidence des éléments qui sont comme autant d'empreintes du passé dans un présent qui ne satisfait pas du tout. Alors là, dans un présent qui se délite complètement de son point de vue. Et alors c'est pour cela que je dis que je ne parlerai pas du tout de réalisme. Il s'oppose au réalisme et à toute forme de matérialisme. Alors certes, par exemple, il admire Balzac, mais il admire Balzac parce que Balzac dépasse le réel, justement, qu'il exploite pour en interroger les causes, voire parfois pour y infuser des formes de mystère. Et en fait, le réel devient un matériau qui, parfois, alors, c'est vrai, sert à dénoncer, enfin, qui a une fonction critique, finalement, hein, qui sert à dénoncer des dysfonctionnements, je pense aux crimes qui sont dénoncés, aux crimes qui se déroulent dans la société contemporaine et qui sont dénoncés dans les nouvelles Les Diaboliques. Ou alors, le réel permet d'introduire une vérité parallèle. Alors, je voudrais juste, alors malheureusement, je n'ai pas pris le texte avec moi parce que cela m'aurait bien plu de lire ce passage, mais ça ne fait rien. Je pense à un objet qui m'a toujours fascinée, qui est dans le dessous de carte d'une partie de Whist, donc cette nouvelle des Diaboliques, la première nouvelle à avoir été écrite hein, dès 1850. Il y a une bague, vous savez, oui. Il y a ce diamant de la comtesse de Stassville. Mais ce qui est intéressant, et qui est décrit extrêmement, d'une manière extrêmement détaillée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, il y a plusieurs bagues, car il y a aussi une autre bague, qui est celle dans laquelle on verse du poison, qui est la bague mystérieuse qui appartient à Marmor, Marmor de Kerkoël. Et alors, il y a une espèce de correspondance qui s'établit à distance entre ces deux bagues et qui a quelque chose d'extrêmement troublant. Et la bague de la comtesse de Stassville, eh bien, elle diffracte des rayons lumineux, des faisceaux lumineux qui ricochent et qui permettent dans ce rayonnement d'associer cet objet à d'autres petits détails, à d'autres objets qui se trouvent dans la même pièce ou à d'autres signes émis par des personnages qui se trouvent dans la même pièce. Alors, tout cela pour dire que le cadre est historique, il est décrit parfois de façon assez minutieuse, et c'est de ce point de vue-là que l'on pourrait, penser à une écriture réaliste. On reconnaît le Valogne aristocrate de la Restauration, ses habitudes, etc., ou d'autres lieux dans d'autres textes, mais ce qui se passe là, à partir de ces objets réels, de ces gestes, c'est toujours énigmatique et c'est toujours, au bout du compte, assez difficile à saisir. Et Barbet, d'ailleurs, je crois que c'est dans une de ses lettres, Barbet écrit qu'il ne veut peindre l'histoire. Et moi, à la place d'histoire, j'ajouterais ou je mettrais volontiers le mot « réel ». Que dans les fonds, par aperçus, par vigoureuses échappées. Le réel, il est là, mais par vigoureuses échappées. Et qu'est-ce qui est valorisé? C'est l'imagination.
Oui.
Donc on est loin de la démarche réaliste, même si on retrouve effectivement un souci du détail et ce désir de faire survivre les choses à travers le temps. Enfin, oui.
Cher Mario Varro, effectivement, le temps est présent, comme le rappelait Pascal Auré-Jonchère. Il est présent par la passion qu'il suscite, par la sensation qu'on en a, par la rumeur diffuse qui se propage, l'événement est là. On pourrait même dire que le temps, effectivement, n'est pas de la matière inerte. Aussi, cela distingue sans doute Barbet d'une démarche réaliste. On peut même dire que le temps griffe. C'est d'ailleurs le titre, je crois, d'un ouvrage.
Oui, tout à fait. Il y a un statut particulier du matériel historique dans les romans de Barbet. Et c'est tout l'enjeu du livre de Judith Lyon-Caen qui a été publié en 2019, qui s'appelait justement « La griffe du temps ». Alors, la griffe du temps, cette expression peut nous faire penser aussi à l'ensorcelé. On n'en sort pas, hein, parce que la griffe, c'est aussi cette esthétique de la cicatrice, hein, l'abbé de la Croix Jugant qui porte sur son visage, en quelque sorte, la griffe du temps, la griffe des guerres passées et la griffe de l'histoire. Mais en fait, la question que pose Judith Lyon-Caen dans cet ouvrage, qui se consacre surtout à l'étude de la vengeance d'une femme, c'est comment le temps, en quelque sorte, prend-il, en quelque sorte, hein, agrippe finalement les individus, hein. Comment une époque se sent-elle devenir historique, alors même qu'elle se vit au présent? Et c'est une question assez vertigineuse, hein, et l'historienne nous propose une sorte d'archéologie, en fait, hein, de cette expérience temporelle de la France, hein, des 1830-1860 à peu près, hein, une période où la littérature n'est pas forcément qu'un ornement, mais aussi parfois un révélateur, hein, évidemment, d'une société en mutation. Et le cœur de la thèse de Lyon-Caen, c'est réside dans une intuition, c'est que au 19e siècle, le roman, hein, on peut penser à Balzac, à Stendhal, à Eugène Sue, ce n'est pas seulement un récit, c'est un dispositif de savoir. C'est-à-dire que après la rupture brutale de la Révolution, de l'Empire, les contemporains éprouvent une sorte de sentiment d'accélération, hein. C'est-à-dire qu'on est sorti un peu d'une sorte de temps un peu, peut-être pas cyclique, mais en tout cas d'un temps qui était celui de l'Ancien Régime, hein, qui avait évidemment ces événements, mais qui avec la Révolution, on entre dans un nouveau, pardon d'être un peu pédant, mais comme l'appelait François Hartog, c'est-à-dire un nouveau régime d'historicité, c'est-à-dire un nouveau rapport, en fait, à l'histoire et au temps.
Oui, en fait, on va mourir dans une société dans laquelle on n'est pas né, parce qu'il y a eu cette blessure révolutionnaire, donc on comprend que le passé peut passer, littéralement.
C'est tout à fait ça. C'est peut-être quelque part la naissance du passé, on pourrait dire, d'une manière un peu provocante. C'est-à-dire que le présent aussi ne coule plus de source, hein, il fait question, hein, et cette griffe du temps, c'est cette marque que les événements politiques et sociaux impriment sur les consciences, mais aussi sur les corps, hein. On le voit notamment dans l'ensorcelé, hein. Et elle montre comment la littérature de l'époque, hein, s'est saisie en quelque sorte de cette urgence pour inventer ce qu'on a pu appeler le contemporain. Donc, quelque part, écrire le présent, c'est déjà, après cette rupture de la Révolution, c'est déjà en faire l'histoire. Et elle reprend cette notion d'Hartog, d'historicité, etc. Mais elle va y donner, évidemment, un contenu beaucoup plus littéraire. Elle va chercher les correspondances, les marges des manuscrits, notamment. Et la preuve, finalement, que la fiction peut être une forme de connaissances historiques. Elle écrit d'ailleurs, lire le roman au XIXe siècle, ce n'est pas s'évader du réel à proprement parler, mais c'est apprendre à le lire. Et donc cette étude, hein, de la vengeance d'une femme lui permet, hein, de mener ce qu'elle appelle une expérience de lecture historique, hein. Elle va être dans une étude assez minutieuse, hein, des objets, on en a parlé, hein, il y a quelques minutes, l'importance des objets, hein, dans la narration révillienne. Hein. Les noms de rue, hein, le boulevard des Capucines, la recréation aussi de tout un monde dans La vengeance d'une femme, hein, ce Paris qui a disparu au moment où écrit Barbet, on le sait, avec la transformation haussmannienne, hein, et les modes, les détails sociaux qui ancrent la fiction dans une réalité historique de son époque. Et ce que montre très bien Judith Lyon-Caen, c'est que Barbet va transformer ce passé, évidemment, en une expérience sensible et mélancolique. Et Pour terminer, je citerai une phrase de Barbet lui-même dans son mémorandum. C'est une réflexion sur l'histoire, hein, l'histoire en tant que discipline, hein, en tant que science. Hein. Il évoque l'histoire qui ne s'écrit pas, hein, et c'est une citation célèbre. Hein. La véritable histoire, pour lui, ce n'est pas celle des cartons et des chancelleries, mais c'est l'histoire orale, hein, c'est le discours, la tradition vivante qui est entrée par les yeux et les oreilles d'une génération.
Merci, Barbet. En effet, Barbet d'Aurevilly, Pascal Henri-Jean-Chien le rappelait, on parlait beaucoup avec Pierre Glaude, était effectivement un contre-révolutionnaire, mais un contre-révolutionnaire critique, et qui ne croyait pas finalement tant que cela dans la pérennité de la Restauration. À travers cette griffe du temps, à travers ce passé qui passe, cher Pascal Henri-Jean-Chien, on a beaucoup parlé de l'ouvrage de Barbet d'Aurevilly, des romans de Barbet d'Aurevilly comme des fables mestriennes, au sens de fables contre-révolutionnaires. S'agit-il pas plutôt d'une restauration du passé, non pas à des fins politiques, mais au contraire de un roman qui irait conserver le souvenir, conserver la parole orale, conserver ce qui passe, justement, alors que l'histoire s'accélère au 19e.
Alors, effectivement, conserver la parole orale, oui, c'est quelque chose d'absolument essentiel, puisque, en réalité, tous ces textes, qu'il s'agisse de nouvelles ou qu'il s'agisse de romans, s'édifient sur des voix, V-O-I-X, hein, des voix qui sont celles des personnages rencontrés souvent par le personnage narrateur qui se fera le porteur, qui se fera le relais de ces différentes voix, donc ce qui signifie qu'il va faire résonner ces voix dans ces textes. Et donc, en fait, les histoires que nous lisons, elles sont le fruit, le produit de certaines de ces voix ou du croisement, dans le cas de l'ensorcelé en tout cas, dont on a déjà parlé, il y a une véritable polyphonie, hein, il y a diverses voix qui se croisent, puisque le narrateur qui est aussi un voyageur, hein, se déplace dans la lande de l'essai au début du roman, et il rencontre un herbager, Maître Tenbouy, qui va raconter l'histoire qui est au cœur de l'ensorcelé, mais ce n'est pas sa seule voix qui va résonner. Il y aura des relais en cours de route, la voix d'une aristocrate, la comtesse de Montsurvan, la voix de Pierre Clou qui assiste, ou qui plutôt croit assister, peut-être avoir assisté à la fameuse messe de l'abbé de la Croix-Juguin, etc. Donc, je crois que là, on touche quelque chose de tout à fait essentiel dans le projet de Barbet, qui lui tient vraiment à cœur, c'est de pérenniser le passé, de s'affranchir des limites temporelles, chronologiques, finalement, de cette histoire dont, par ailleurs, il parle tant, pourtant, mais il essaie de conjurer toutes ces justement les enfin de dépasser les gouffres, de guérir les pas de les guérir mais de les refermer, les cicatrices faites laissées par l'histoire, mais il essaie d'instaurer une durée, une continuité qui puisse faire fi des drame de l'histoire, je crois.
À l'horizon, le ciel est encore rouge. Sans sommation, il tire sur tout ce qui bouge. On les appelle les colonnes infernales. plus généreux. Ils ont brûlé nos fermes et nos églises. Ils ont noyé nos prêtres par surprise. La loi n'est plus qu'un long fleuve de sang. Jouant, jouant. Ils disent que nous sommes une race maudite.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Deuxième partie de l'émission, au son effectivement de la musique vendéenne, nous parlons d'un roman crucial qui peut-être le plus se rapprocherait de l'épaisseur de l'histoire chez Barbé d'Urville, Chevalier des Touches. Roman sur lequel nous disions il a beaucoup hésité, sur lequel il a beaucoup travaillé, qui raconte une histoire assez cruciale dans les guerres de Chouannerie, celles qui ont effectivement soulevé la Normandie à partir de 1795 et qui ont duré, perlé, jusqu'à ce que le premier consul se saisisse du chef des Chouans normands, Louis de Frotté. C'est l'histoire d'un homme, un des chefs Chouans, des Touches, capturé par les Bleus et dont la mort pourrait porter un coup fatal à la contre-révolution. Alors ils sont 12 et ils décident d'aller le secourir. Et pour le secourir, une entreprise vaste, dangereuse, périlleuse, qui les amène jusqu'à la prison de Coutances, qui finit dans un gigantesque brasier. Mais il faut voir, et Pascal Auré-Jonchère le rappelait, cette histoire n'est pas racontée directement comme pourrait l'être, par exemple, les guerres des Highlands écossaises chez Walter Scott. Cette histoire n'est pas un roman historique en ce qu'elle n'est que le souvenir. En ce qu'elle apparaît, comme dans le sous-table d'une partie de Whist, à la veillée, devant un feu, un spectre qu'on a vu passer dans les rues de Valognes une nuit, et voilà tout un salon qui s'étonne, qui s'époumonne en disant « Quoi ? Le Chevalier des Touches, celui que l'on pensait disparu, il vit encore. » Et là, ça amorce quelque chose, ça amorce un récit, ça amorce effectivement une nouvelle parole. Alors, Chevalier des Touches, il y a toute cette mise en scène initiale. Le mode de transmission fait effectivement toute sa place à l'oralité. Pascal Auré-Jonchère disait que c'était effectivement, in fine, presque une méthode historique, une philosophie de l'histoire, celle qui ne serait pas inerte, celle qui ne serait pas figée, mais celle qui serait vivante dans la parole, dans le souvenir, par le témoin. En proposant de raconter le récit du personnage, ne propose-t-il pas aussi une audace d'écriture sur laquelle on pourrait revenir le choix d'un mode de transmission. Je veux dire, Barbé d'Aurevilly, on le disait, n'est pas forcément un auteur réaliste, mais son style surprend sans cesse. Dans Le Chevalier des Touches, ce n'est pas un récit linéaire. C'est un récit où des touches apparaît, disparaît, surprend, sacrifie, où des personnages apparaissent, etc. N'est-ce pas lié finalement à cette parole même du conteur, cette parole même du personnage au coin du feu, qui, en hésitant, en déformant, va sans cesse en fait raconter une histoire en haillons. Pascal Auré-Jonchère.
Oui, alors oui, merci pour cette présentation de ce roman qui est un merveilleux roman qui n'a pas toujours été apprécié cependant à sa juste valeur.
Un peu capé d'épée.
Mais, c'est un roman oui qui prend alors là. Peut-être plus encore que tous les autres, il prend naissance véritablement dans une parole qui est scénarisée. Il y a une véritable mise en scène. On a parlé de l'ouverture du roman, de l'atmosphère, cette nuit très sombre, très froide. On se trouve à l'intérieur d'un salon. Qui est un salon qui renvoie aux époques passées par Strat. N'est-ce pas ? Il y a des portraits au mur hein, qui renvoient à des figures historiques du passé. Et puis, sont réunis dans ce salon des vieillards, plusieurs vieillards. Et Barbé écrit que ces vieillards réunis formaient à eux tous environ 3 siècles et demi. Alors, la temporalité, n'est-ce pas, elle est là, effectivement. Et l'un des protagonistes, celui qui vient de croiser par hasard en arrivant, en bravant la pluie, hein, qui a croisé ce spectre, qu'il a reconnu pour être le chevalier des touches, eh bien, va soulever ce sujet, et une histoire va être racontée. Alors, elle est racontée essentiellement par une femme qui n'a pas l'air d'une femme, qui s'appelle Barbe de Percy, et tout le monde écoute. Et c'est un roman, moi, qui me frappe parce que tout au long du roman, tout le monde écoute. Et ces auditeurs qui interviennent de temps en temps, et puis on voit, il y a des notations sur leurs expressions, les expressions qui passent sur leur visage, sur les rougeurs, que l'on peut parfois déceler sur leur visage, sur les inflexions de leur voix, etc. Et donc, on ressent leurs réactions, on ressent leurs émotions. C'est un roman qui porte aussi sur la façon dont on transmet des histoires avec émotion et à un auditoire qui lui-même ressent des émotions, alors qui peuvent être tout à fait contrastées, ces émotions, hein. Et c'est d'ailleurs un roman qui est aussi très intéressant parce qu'il mêle des registres différents. Il y a une dimension parfois comique, voire grotesque, mais qui n'est jamais, à mon sens, hein, ça se discute, je le sais, mais à mon sens, le grotesque n'est jamais un grotesque critique. C'est plutôt un grotesque très tendre, je trouve, moi, que le narrateur exprime, hein, par rapport à ces personnages qui incarnent véritablement le passé, qui ont vécu une espèce de geste héroïque, ou tout au moins ce que Barbe de Percy choisit de raconter, de présenter comme une geste héroïque sur un mode complètement épique, hein, à ce moment-là. Voilà. Donc, je ne sais plus trop quelle était votre question.
vous arrivez avec votre réponse et c'était très bien. En effet, c'est un roman qui est riche et il y a cette action. Il y a cette action qui est celle de la guerre et qui nous conduit à l'héroïsme. Et on pourra développer effectivement la figure du héros lors de l'émission. Il y a aussi cette ambiance normande. On a, je crois, 40 ou 50 pages sur Valognes. Les scènes d'exposition sont extrêmement longues, justement. Et on a cette demeure dans laquelle va être racontée l'histoire, dans laquelle on va dire, raconter, avoir vu des touches. Cette demeure, elle est flanquée de tourelles. Il y a des chiens. Il y a de la garde, comme si, sous la Restauration, et je crois que le Chevalier des Touches, le récit qui raconte le Chevalier des Touches se situe dans les années de la Restauration, on a également ce portrait de la noblesse de la Restauration. Il y a l'histoire de la chouannerie, qui par certains côtés d'ailleurs assez lucide sur ce qu'a été la chouannerie normande, et il y a également le portrait d'une société qui essaye de revivre ce qu'avait été l'Ancien Régime. Et on a ces dames qui sont des ombres. Mmh. Et on a ces attributs de féodalité, je crois, d'ouvrages défensifs, quasiment en plein 19e à la campagne, qui sur un plan rationnel défensif, ne servent absolument à rien, mais qui sont pieusement entretenus. Il y a encore des douves, vous voyez, il y a encore des douves qui sont entretenues. Il y a encore un cérémonial de la théière, je crois. Il y a encore des rites. On a des marquis de tabouret, on a des marquis d'antichambre. C'est proprement le portrait d'une aristocratie qui s'attache à la forme. À la forme même de son pouvoir, à la forme même de son prestige, puisque la substance en a disparu.
Oui, mais c'est une aristocratie qui est complètement refermée sur elle-même, et ça n'est pas pour rien que c'est un huis clos aussi.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a des échappées extraordinaires, bien évidemment, grâce au récit, hein, des échappées notamment sur l'océan que traversent des touches, hein, on en reparlera peut-être, mais... il faut bien voir que tout cela se passe de nuit entre des personnages qui ont l'habitude de se retrouver, mais qui n'admettent dans leur société, dans leur cercle parfaitement clos, que leurs semblables. Oui. Et la seule à être admise, qui n'est pas présente au début, qui arrive un peu en retard, et qui est... Mademoiselle Aimée de Spence, eh bien, Aimée c'est une aristocrate. Donc il y a ce repli, et c'est un repli qui est assez, alors qui peut être cocasse hein, à bien des égards, mais qui est assez terrible parce que on a des vieilles demoiselles hein, qui sont restées vieilles filles et qui se fondent un petit peu. Je me souviens plus de la exactement de la métaphore.
Comme des ombres.
Oui. Consume comme des bougies, ouais. Et comme de la cire, comme de la cire qui coule. Aimée de Spence est sourde, c'est extraordinaire. Elle est sourde et elle vient se joindre à eux pour finalement écouter un récit qu'elle ne peut pas entendre. Et c'est tant mieux si elle ne peut pas l'entendre, puisque elle serait bouleversée si elle pouvait l'entendre. Mais on a quand même un dispositif narratif qui est tout à fait singulier et qui est assez poignant, moi, je trouve.
Et pour en revenir à notre conception du temps, on a l'impression que chez Dans le Chevalier des Touches, tout finit. C'est le soir, on s'enfonce dans Valognes. C'est un roman du déclin, voire même, peut-on dire, de la décadence.
Oui, je parlais de ces métaphores hein, à l'instant. Tout se délite, j'ai déjà employé ce terme, je crois, tout se défait. Et là vraiment, en fait, j'allais dire il n'y a plus d'espoir. Le seul espoir serait peut-être, enfin, est de vivre, de revivre, justement, les choses par procuration, grâce au récit, grâce à la parole. Alors, c'est la parole incluse dans le roman, mais c'est la parole portée, évidemment, par le romancier. Donc, Barbet agit,
absolument,
pas par les armes, évidemment, mais en ressuscitant des épisodes historiques qui sont ici narrés d'une manière extraordinairement romanesque et magnifiante, plus d'une façon parfois un petit peu trop peut-être exagérée pour que l'on y croit vraiment, eh bien, il recrée, il revivifie ce passé complètement disparu et complètement déliquescent dans le moment historique dans lequel, qui est le cadre du roman.
Dans Le Chevalier des Touches, l'histoire n'est en effet jamais un cours, ni même un récit, c'est une brume qui colle au mur, un crépuscule qui s'assoit dans les salons, un passé qui se transmet par tic, par objet, par voix rapportée. Barbet ne reconstitue pas la chouannerie, il la fait revenir comme un mythe moral. Valognes devient une espèce de conservatoire étrange et par certains côtés inquiétant. Il est un roman, un autre roman de chouannerie, peut-être celui qu'on pourrait effectivement le plus rapprocher par sa densité historique des faits et du réel. L'ensorcelé, cher Mario Varro. Vous en êtes, je crois, un lecteur passionné. Roman L'Ensorcelé, qui traite effectivement d'une passion honteuse, une passion impossible, incompréhensible, invraisemblable, entre un prêtre dont Bruno Santora me rappelait qu'il avait été défiguré, mortifié par la guerre, un prêtre qui a chouanné, et qui à ce titre a été puni de sacerdoce pendant plusieurs années, qui ne revient qu'au bénéfice du concordat. Et puis, une noble, mésalliée, mariée à un acquéreur de biens national, un jacobin à peine... À peine culturé, à peine cultivé, à peine lettré, qui s'ennuie, qui se morfond dans ce mariage de mésalliance qui est ceux de beaucoup de familles nobles de la Révolution. Un noble déchu, une noble déchue, un prêtre renégat et une passion amoureuse incompréhensible. Et puis un drame derrière avec effectivement tous ces souvenirs qui hantent la province normande. Cher Mario Varro, qu'avez-vous à nous dire sur L'Ensorcelé ?
Oui, L'Ensorcelé, c'est un roman important, hein, évidemment, dans l'univers de Barbet. Il a été publié en 1854 et c'est un roman dans lequel il va ressaisir un peu tous ses motifs. Alors, et c'est dans l'ordre chronologique hein, de ses grand roman, premier grand roman, hein, Une vieille maîtresse, a été publié un peu avant, mais ça a été publié avant Le Chevalier des Touches, ça a été publié avant Un prêtre marié, évidemment bien avant Les Diaboliques. Et c'est une manière pour lui de se replonger dans ce Cotentin. Et pour revenir à la question de l'histoire et de la documentation, d'une manière assez ironique, ce roman se situe principalement dans la lande de l'Essé, c'est-à-dire dans un endroit, c'est assez étrange, mais dans lequel Barbet n'était pas encore allé à ce moment-là. Et donc, en fait, c'est une anecdote qui a quand même son importance, parce qu'elle nous dit tout l'aura de mystère de ce roman et l'aura de mystère qu'il voulait conférer à ce roman. Hein. Ce qu'il y a d'assez incroyable aussi dans ce roman, vous avez très justement rappelé l'intrigue, c'est le rôle des récits et de l'oralité aussi dans ce roman. On a parlé il y a quelques minutes de cette polyphonie aurévilienne. On pourrait dire qu'il y a une sorte de à côté de Barbet, il y a, enfin un peu avant hein, L'Ensorcelé, il y a une sorte de réalisme balzacien hein, qui va s'efforcer de cartographier le monde, hein, en tout cas le monde social, par une sorte de description qui se veut parfois totale. Hein. Et Barbet, à l'inverse, choisit dans L'Ensorcelé de reconstruire notamment un paysage. De reconstruire un paysage par le souffle de la voix. Julien Gracq écrivait très justement qu'on ne lisait pas forcément Barbet, mais qu'on l'écoutait. Hein. Le roman, ce n'est pas forcément ce miroir que l'on promène le long du chemin, hein, dont parlait Stendhal, mais c'est une sorte, c'est assez juste, notamment dans L'Ensorcelé, une sorte de veillée. Hein. Il y a une dimension de conteur hein, chez Barbet. Hein, il n'installe pas justement son lecteur directement au cœur de la tragédie hein, de l'abbé de la Croix-Jugant, mais il nous y conduit par une sorte de détour. Ça commence, on le sait, hein, par des pages très célèbres hein, du corpus aurévilien. C'est un narrateur, un voyageur égaré qui fait une description comme ça de cette lande de l'Essé, qui est une description assez fantasmagorique hein, et mythologique pour le coup. On va en parler plus tard dans l'émission. Et il va recueillir finalement les débris, hein, les débris d'une histoire que le temps a transformé quelque part en légende. Hein. Et le récit rapporté dans L'Ensorcelé, c'est pas qu'un simple artifice technique, hein, c'est aussi une vision de l'histoire, hein, c'est-à-dire une mémoire qui ne se fixe pas toujours dans les livres, mais qui survit dans les consciences. Et dans L'Ensorcelé, Barbet multiplie les intermédiaires.
Oui.
Il y a le narrateur voyageur, évidemment. Il y a les bergers qui sont des figures, pour le coup, des archétypes puissants,
oui,
mythologiques, symboliques. Hein. Il y a tout un symbolisme très puissant avec la figure des bergers. Et puis la rumeur publique. Hein. L'oralité, en fait, dans L'Ensorcelé, elle va dépasser le cadre du dialogue, parce qu'il y a, certes des dialogues, mais il peut y avoir du style indirect libre. Bon. Il y a cette polyphonie hein, des voix. Hein. On a souvent des occurrences dans L'Ensorcelé, on peut citer, hein, disait-on, parlait vaguement, si l'on en croyait les récits des charretiers. À un moment, il nous parle des mauvais bruits, comme on disait, qui couraient sur l'Essé. Quelle créance pouvait-on donner à de tels récits ?
C'est presque comique parfois.
Et les commérages, évidemment. Alors les commérages, on le sait, pour Barbet, les commères étaient des poètes aux petits pieds. Hein. Et il aimait beaucoup les commères, et d'ailleurs il critiquait l'espèce de mépris superficiel, hein, c'est son expression, qu'on avait à l'endroit des commères. Et dans ce roman L'Ensorcelé, on a deux figures des commères qui sont évidemment importante dans la narration, à savoir évidemment Nonon Coquouan et Barbe Causseron. Et ces deux commères qui ont un rôle important dans l'intrigue, notamment pour Jeanne de Feuardent, déjà par leur nom, hein, par l'onomastique, il y a quelque chose d'assez comique, d'assez ironique en fait, puisque ce récit enchâssé participe de l'ironie en fait aurévilienne, hein. Coquouan, évidemment, ça nous fait penser au cancan, hein, au fait de cancaner, c'est-à-dire ce bavardage souvent médisant. Et puis Barbe Causseron, on peut penser au fait de causer, hein, nous causerons, hein. Alors on peut dire que c'est peut-être un peu capillotracté, mais tout de même on sait que Bardet accordait beaucoup d'importance à l'onomastique et au lien indéfectible qu'il établissait entre le son et le sens. Donc il y a cette polyphonie, il y a si le rythme de la causerie des salons et des conversations, même si ce n'est pas forcément le cas ici dans L'Ensorcelé, mais il y a aussi, là ce n'est plus le cas typique de L'Ensorcelé, la dimension incantatoire du récit rapporté. C'est que on peut dire que on connaît la formule quand dire c'est faire, mais quand dire c'est faire, c'est aussi jeter un sort. Hein. Celui qui jette un sort, littéralement l'ensorcelé, celle à laquelle on a pu jeter un sort, c'est par le verbe. Hein. Et ça, on peut renvoyer aux très bons travaux de Jeanne Favret-Saada sur notamment la sorcellerie, et notamment dans le Cotentin, qui est une haute terre de sorcellerie, comme on le sait. Mais et là, c'est la figure des bergers. Les bergers qui ne sont pas que des témoins, mais qui sont aussi une sorte de gardiens obscurs, mystérieux, puisqu'on ne sait pas vraiment d'où ils viennent. Hein. Ils ont une sorte de physique un peu étrange, on ne sait pas exactement ce qu'ils font. Ils s'opposent par leur oisiveté au labeur, hein, à cette lucidité normande, hein, dont parle Bardet. Et ils sont les gardiens d'une sorte de parole magique. Oui,
et puis plus historiquement de l'improductif et de l'inculte qu'au XVIIIe, on voulait mettre en culture toute force.
C'est ça. Il y a évidemment, en effet, au-delà de ça, une résonance historique et sociale plus prosaïque, entre guillemets, mais aussi essentielle. Et chez eux, l'oralité devient une sorte de force occulte qui peut lier ou démolir les êtres. Et donc ici Bardet, avec cette écriture de l'oralité, si on peut me permettre cet oxymore étrange, dans L'Ensorcelé se fait conteur, hein. C'est ce qu'écrit Bardet d'ailleurs dans ces pays de vieilles croyances. L'histoire ne meurt pas, elle se transforme en superstition. Et la superstition, elle est liée aussi à cette question de l'oralité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans L'Ensorcelé, le récit rapporté n'est pas une perte d'information. C'est-à-dire que c'est plutôt une sorte de gain de mystère. C'est-à-dire, ce qu'il y a d'important dans ces débris, dans ces fragments oraux, ce n'est pas ce qu'on perd, ce n'est pas ce que le lecteur perd en tant que qu'information réaliste ou de données factuelles. C'est au contraire ce que l'on gagne en mystère, ce que l'on gagne en inconnu, en obscurité, et donc partant en art littéraire. Hein. Et il ne faut pas oublier que Bardet nous disait souvent, écrit souvent que la poésie est la fille du rêve, hein, et que ce caractère parfois lacunaire du récit oral peut permettre, hein, justement cet espace pour le rêve ou pour le cauchemar, et c'est plutôt en effet le cauchemar dans L'Ensorcelé. Et quand on a refermé le livre L'Ensorcelé, le lecteur n'a pas simplement l'impression d'avoir lu une histoire, d'ailleurs la fin peut être vue comme assez mystérieuse, hein, mais il y a une impression d'avoir assisté à une sorte de confession nocturne, hein. C'est vrai qu'il y a une ambiance assez sombre dans ce roman, dont il peut être lui, le lecteur, à son tour le dépositaire inquiet. Et donc le roman pose sans cesse finalement la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé, hein? Jeanne le Hardouet était-elle vraiment sorcelée par l'abbé de la Croix-Jugan, hein? Les événements surnaturels ont-ils eu lieu ou sont-ils des projections de l'imaginaire collectif? Et cette indécidabilité, hein, qui d'ailleurs n'est peut-être pas un roman à proprement parler fantastique, mais on sait depuis Todorov que cette indécidabilité entre le réel et le fantasmagorique, c'est l'une des définitions du fantastique, hein. Et c'est au cœur du projet littéraire de Barbet. Et il y a une sorte d'humilité narrative, quelque part, de reconnaissance de la part de fantasmes et de reconstructions qui entre dans toute transmission orale. Yeah. Et il y a aussi la question de la rumeur. Et la rumeur, chez Barbet, devient un mode de connaissance spécifique. C'est-à-dire qu'elle ne s'oppose pas simplement à une sorte de vérité objective, mais elle représente la manière dont une communauté sociale, une communauté historique, appréhende et interprète les événements qui la troublent. Hein, on a les commérages sur Jeanne de Fardan, les hypothèses contradictoires sur les motivations de l'abbé.
Donc un roman touffu, à tout point de vue.
Voilà, exactement.
Parce qu'à la région chère, Mario Varro disait que le sorcelet était entièrement centré finalement sur la parole. On a même parfois classé le roman comme étant fantastique, en tout cas très pittoresque. Comment faut-il comprendre ce roman L'Ensorcelé dans le régime général de l'écriture de l'histoire de Barbet d'Aurevilly?
Alors, pour moi, c'est un roman qui privilégie effectivement, comme cela vient d'être dit, le mystère. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que cette pluralité des voix qui s'entrecroisent, y compris celles qui portent des paroles dont on n'a pas véritablement connaissance, mais enfin bon, il a été question de rumeurs, effectivement, on sait qu'il y a des diris, hein. Bon, alors ça c'est très important. Donc il y a cette pluralité de voix, donc a priori cette pluralité d'informations. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que cette pluralité d'informations ne parvient pas à venir à bout, j'allais dire, de la matière de la matière du roman. Et on ne parvient pas du tout, pas plus à la fin qu'au début, à comprendre ce qui s'est réellement passé. Alors on a un certain nombre d'éléments, bien sûr, on connaît la mort dramatique de Jeanne, mais on ne sait rien sur cette mort. Il y a des conjectures, il y a tout un ensemble d'hypothèses. Et donc, c'est un roman touffu, disiez-vous, mais qui est touffu justement du point de vue des hypothèses et du point de vue peut-être davantage encore des questionnements. C'est un roman qui suscite plus de questions qu'il ne donne d'informations. Et là, on est dans un régime qui est typiquement, régime romanesque, qui est typiquement aurevillien, parce que c'est ce que Barbet continuera à faire et il présentera sous une autre forme complètement et dans un milieu complètement différent en 1874, bien sûr, dans Les Diaboliques. Hein. Mais là, donc, on a ce... on est plongé... Oui, alors ça, j'aimerais bien insister sur ce point. Sure. On est plongé, vous avez parlé de fantastique, oui, à juste titre, hein, une sorte de réalisme onirique ou de fantastique métaphysique, hein, je dirais, parce que qu'est-ce qui se passe, hein, c'est que dans les événements qui se déroulent dans cette communauté normande, il se produit donc des faits inexplicables. Et ces faits inexplicables montrent qu'on se trouve plongé dans un monde où justement, un monde qui n'est pas imperméable à l'étrange, qui n'est pas imperméable à des éléments ou des influences supranaturelles. Et c'est cela que Barbet veut montrer, au contraire justement d'une vision matérialiste des choses. Et la lampe dont on a parlé tout à l'heure, cette extraordinaire lampe de l'essai, elle est là pour cela aussi au début. C'est-à-dire, il est bien dit qu'elle est complètement inutile. Hein, c'est un espace inutile, économiquement parlant, la lampe de l'essai, elle ne sert à rien. Donc elle n'est pas du tout intéressante hein, pour la modernité, mais elle est puissamment symbolique et elle est puissamment poétique. Voilà, et c'est ce mot-là que je voulais absolument ajouter peut-être. La lampe, c'est la poésie qui s'oppose au matérialisme. C'est l'incertitude et le mystère qui s'opposent au positivisme et au réalisme brutal. Et c'est une façon de nous happer et de nous éloigner de la société contemporaine et de ses rouages. Voilà.
Oui, et effectivement, Mario Varro le disait, en fait, dans Des touches comme dans L'ensorcelé, Barbet est parfois involontairement historien, puisque en fait, l'inculte était une des grandes affaires de la Révolution au XVIIIe siècle, le partage des terrains de communes par les communautés paysannes, alors qu'elles voulaient être mises en culture par les propriétaires terriens. Cette idée que la chouinerie normande est une guerre qui repose d'abord sur le charisme de Louis de Frotté, le charisme de chef, mais les historiens l'ont dit. Les historiens ont dit que ce qui pouvait distinguer la chouinerie normande de la Vendée, ou même de la chouinerie bretonne, c'est qu'elle devait assez peu, finalement, à un contexte économique, religieux, social, historique, régional. Elle devait beaucoup à des hommes, en fait. Elle devait beaucoup à leur effet d'entraînement. Mmh. Et ça, on le voit quand même dans Chevalier des Touches, et on le voit également dans L'ensorcelé. C'est d'abord une aura qui fait ceci. Et effectivement, Barbet échappe au réalisme, même s'il va dans le pittoresque. Et pourtant, bah, volontairement, il y a une lucidité historique. Et là, pour le coup, qui est confirmé par l'histoire, et notamment par les plus récentes recherches de l'histoire, et qui vraiment confirme son projet, puisqu'il passe son temps à dire que la parole est plus réelle que la réalité, que l'onirisme est peut-être plus réel, en tout cas plus réaliste que ne le serait un dispositif d'analyse historique positiviste, que serait l'archive, que serait un bouquin de Sorbonne Art. Mmh. Et bien finalement, oui, effectivement, les intuitions de Barbet concernant la chouinerie, concernant l'inculte, concernant la paysannerie, ben, il y a beaucoup d'actualité. Il y a beaucoup d'actualité. Nous passons à la dernière partie de notre émission qui est consacrée plus spécifiquement à un de vos ouvrages, Pascal Auré Jonchère, Barbet d'Aurevilly et l'unité impossible, je crois, paru en 1997, il y a de cela donc une vingtaine d'années si je ne dis pas de bêtises. Vous amorcez l'ouvrage sur une affirmation, effectivement, une réflexion autour du statut de la femme et du conte au 19e. On sait, Bachelier le savent, qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, tout ce qui relève de l'invraisemblable, du conte, du fantastique, n'avait pas forcément mauvaise presse. On se fait se tenir les côtes au lycéen avec le texte de Fontenelle sur la Dent d'Or, en disant c'est invraisemblable, on n'a jamais vu ça, c'est des histoires à dormir debout, etc. Au XIXe, vous écrivez, il y a une réhabilitation de la fonction fabulatrice. Alors que se passe-t-il concrètement pour qu'on se remette à s'intéresser à l'invraisemblable?
Alors oui, il y a une réhabilitation de la fonction fabulatrice, effectivement, notamment avec le romantisme et avec un nouveau type de lecture hein, qui se met en place, qui est une lecture symbolique de la nature en particulier. Et cette fonction fabulatrice permet de donner peut-être... jusqu'auparavant libre cours à l'imagination, en se référant à des mythes de nature extrêmement variés, d'origine diverse, peu importe, qui sont considérés comme des modalités de déchiffrage du réel. Alors ça peut paraître paradoxal, mais, comme le dit Jolès, hein, le mythe se définit comme une parole qui suscite ce qu'il appelle l'humeur interrogeante, c'est-à-dire il apprend à se poser des questions. Là encore, il ne donne pas des réponses, mais il pose des questions. Alors, c'est très intéressant quand des ouvrages, des romans, des fictions abordent l'histoire en mêlant des référents mythologiques qui semblent fonctionner, qui semblent être là pour véritablement faire sens. Donc, voilà, les mythologies, ce sont de possibles lectures du monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien au XIXe siècle, alors c'est loin de concerner le seul barbé, évidemment, il y a, eh bien, par exemple, des figures mythiques très connues, hein, des figures antiques mythiques très connues, qui reparaissent, qui sont de nouveau sollicitées et qui sont investies de sens complètement nouveaux. Et ces sens nouveaux sont indissociablement liés au contexte social et au contexte historique. Hein, c'est l'histoire qui redonne un nouveau sens à un certain nombre de figures mythiques.
Alors on peut les évoquer chez Barbet, puisqu'on y vient, et vous le dites, d'ailleurs, vous l'écrivez dans L'Unité Impossible, on a chez Barbet des centaures, des méduses, des hélènes. C'est quasiment une tragédie grecque dans le bocage, alors.
Oui, c'est ça. Mais, maintenant, vous citez les centaures, c'est intéressant, ça pourrait paraître un petit peu... étonnant, effectivement, cette intrusion des centaures dans le bocage, comme vous dites. Alors, le terme de centaure, Barbet l'emploie lui-même, hein, pour désigner, alors par le biais de comparaisons, de métaphores, évidemment, pour désigner un certain nombre de ces personnages. Et effectivement, si on fait attention, alors on parlait à l'instant de l'abbé de la Croix-Jugan. L'abbé de la Croix-Jugan, il est montré très fréquemment en train de chevaucher. Surtout la nuit à travers la lande. Et alors, je n'ai pas le texte près de moi, mais on pourrait relever des expressions très, très précises qui montrent que l'homme et le cheval font corps. On a affaire quasiment à une sorte de figure hybride. Hein. Et il y en a d'autres. Hein. Là, c'est un exemple.
Néel de Néou meurt sur son cheval, je crois.
Il fait... Voilà, Néel de Néou meurt sur son cheval. Enfin, il y a des choses absolument. Absolument fabuleuse. Et le centaure est là pour représenter une dualité, hein, une dualité des personnages que Barbet représente comme déchirés, comme divisés entre des tentations contradictoires. Hein. Et je pensais à Joseph de Maistre, dont on n'a pas vraiment parlé pour l'instant, et dont le nom et la figure sont toujours plus ou moins présents à l'horizon, hein, dans les textes de Barbet. De Maistre lui-même, on n'attendrait pas cela sous sa plume, parle lui aussi des centaures, et je voulais... lire une citation, alors qui donc n'est pas de Barbet, mais qui est de Joseph de Maistre, et qui dit que l'homme est l'assemblage inconcevable de deux puissances différentes et incompatibles. Centaure monstrueux, il sent qu'il est le résultat de quelque forfait monstrueux, de quelque mélange détestable qui a vicié l'homme jusque dans son essence la plus intime. Alors ça, c'est dans les soirées de Saint-Pétersbourg, le livre que Barbet aimait tant, admirait tant, voilà, aurait tant voulu imiter. Et ces centaures qui peuvent nous étonner peut-être, mais au fond... on les remarque moins quand on se rend compte qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a tout autour d'eux dans le bocage normand, mais aussi dans les salons parisiens, bien d'autres figures hybrides, masculines ou féminines, hein, qui font leur apparition. Ils sont là pour nous aiguiller, je pense, enfin nous conduire vers une réflexion justement sur la dualité de ces personnages qui sont déchirés par l'histoire. Donc on pourrait penser que la mythologie se situe aux antipodes, hein, du côté d'une imagination complètement débridée. On pourrait penser donc qu'elle se situe aux antipodes de l'histoire, mais non. Je crois que chez Barbet, comme c'est quelque chose de très fréquent et même d'assez systématique, hein, je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de sa démarche, de son processus d'écriture, de sa poétique, il y a cette grande prégnance de la mythologie qui n'a rien de farfelu, qui est au contraire quelque chose d'extrêmement concerté, parce que c'est très précis, hein, oui. dans les textes, dans la formulation, et qui participe d'un dispositif général, là encore, de déchiffrage des événements, ou plutôt, pas des événements en eux-mêmes, mais de la façon dont les hommes reçoivent ces événements. Et il y a toujours cette réflexion hein, par rapport aussi à la temporalité, bien entendu, avec aussi des figures comme celle de Chronos, etc. Enfin bon, il faudrait voir cela dans le détail. Mais voilà, moi, ce qui m'avait intéressé, c'était de mettre au jour cette lecture qui est très cohérente de bout en bout hein, dans l'ensemble du corpus aurevilien et qui, encore une fois, participe d'un refus de mise en place réaliste des choses au profit d'une représentation qui puise beaucoup dans les forces de l'imaginaire.
Oui, ça vaut pour l'histoire, mais... Vous écrivez dans L'Unité Impossible, il y a un chapitre Barbet des Burges, ça vaut aussi pour la géographie, puisque vous dites qu'en fait les lieux, l'Espagne, l'Hyperborée, l'Ouest, l'Occident, ce sont des points cardinaux, mais ce sont aussi des mythes en fait. L'Occident, donc le mythe du couchant, l'Hyperborée, il y a des pages magnifiques dans cet ouvrage sur effectivement toutes les occurrences que peut être un Jarl scandinave au XIXe siècle, les va-et-vient d'Angleterre, et vous écrivez qu'ils sont même nourris d'ailleurs d'emprunts littéraires. On dirait intersexuel, shakespearien, Walter Scott ou autre. Il y a par exemple un or, une hyperborée mythique chez Barbet d'Aurevilly.
Oui, absolument. Alors, oui, il y a tout cet imaginaire du Nord qui est extrêmement important pour lui parce que, bon, on est en Normandie, oui. Enfin, la plupart du temps, on est en tout cas dans l'Ensorcelé et dans le Chevalier des Touches. Et en Normandie, on pense l'origine. Et bon, je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi la raison d'être hein, de ce recours au mythe de la part de Barbet. Hein, c'est le mythe, anthropologiquement parlant et religieusement parlant aussi, c'est une façon de retrouver les origines, hein, le temps de la création du monde, l'origine absolue, etc. Et Barbet, il y a de cela chez Barbet. Il y a un désir, on l'a dit, de remonter le temps, de retrouver les temps passés, mais de le remonter jusqu'au bout pour trouver une origine qui soit une origine idéale, absolue, magnifique. Et le Nord, les hyperborées, tels qu'il les met en scène, c'est cela. Ce sont les premiers Normands qui sont associés à la force conquérante et donc à une imagerie bien, bien spécifique.
Oui. Et puis il y a une excentricité anglaise également, oui, avec le duché de Normandie.
Voilà.
Oui.
Voilà. Alors, chez Barbet, ce qu'il y a, c'est que les hyperborées, ça devient tout autre chose que dans la mythologie traditionnelle. Hein. Excusez-moi. C'est beaucoup plus vaste et ça concerne l'Angleterre en fait partie, l'Écosse en fait partie, les îles Shetland en font partie, etc. Hein, c'est pour
dans
ça
ceux
que,
qui ne meurent pas, oui, il y a beaucoup d'occurrences sur l'Écosse.
Oui, et puis dans le dessous de carte, avec le personnage de Marmor qui est présenté comme étant un petit peu... Enfin, il est écossais, hein,
oui.
Donc comme un hyperboréen d'une certaine manière.
Le mythe est donc mais le théâtre, voilà, effectivement, d'un... Vous convoquez Mircea Eliade ou Eliade, d'un regressus ad uterum, justement, d'une manière de revenir jusqu'au bout, aller effectivement au-delà d'une recherche historique parcellaire, qui serait effectivement celle de l'histoire scientifique, une recherche historique de l'origine totale. Et les références à Mircea Eliade sont assez fréquente et assez convaincante dans cet ouvrage d'ailleurs. En tout cas, moi, m'ont convaincu. Je pense que les auditeurs d'ailleurs découvriront avec intérêt ce grand anthropologue du mythe du XXe qui en a fait autre chose justement qu'une fable, un récit du faux, mais qui en a fait au contraire des archétypes intemporels dans lesquels on peut se réfugier et qui en fait nourrissent l'imaginaire romanesque de siècle en siècle.
Oui, qui permettent de structurer ou de restructurer d'une autre façon le monde, hein, en ayant une vision du monde et en donnant, là, en l'occurrence dans les romans de Barbet, une vision du monde très singulière. Hein. Vous parliez des points cardinaux, toute la représentation des paysages également, hein, tout cela procède effectivement d'une perception très singulière, fortement symbolique et qui peut se rattacher à un certain nombre de mythes, de rituels, etc. Et qui, au bout du compte, sacralise et resacralise, alors j'allais dire les territoires, le mot n'est peut-être pas le mieux choisi, mais en tout cas les espaces, on se réapproprie l'espace qui a été dévasté en le resacralisant grâce à ce regard d'une autre nature.
Bon, il nous reste une minute et nous avons, je crois, deux publications à mentionner. La Revue des Lettres Modernes nous paraîtra un dossier Barbet et Société que je crois vous dirigez, Pascal Auré-Jonchère.
Oui, et également ce sera le prochain numéro.
Également une réédition d'une histoire sans nom. Alors, l'éditeur, pardonnez-moi, m'échappe, mais je crois que vous préfacez l'ouvrage, une réédition d'une histoire sans nom, donc aux éditions...
Chez Champion,
absolument. Ouvrage que nous avions déjà pu mentionner dans notre numéro radiophonique, c'est ça, sur la passion amoureuse. Merci beaucoup, Pascal Auré-Jonchère, pour cet échange très riche, nocturne.
Merci à vous.
Chers auditeurs, à dans un mois, clôturerons cette série d'émissions sur Barbet d'Aurevilly. À dans un mois, et d'ici là, que Dieu vous garde.
Entendre le Libre Journal des Littératures dirigé par Hector Burnouf, diffusé en direct sur Radio Courtoisie jeudi 19 février 2026 de 21h30 à 23h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.